VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec au micro. Dans quelques instants, l'Amérique et vous avec Jean-Roger Billon, une émission consacrée aux élections présidentielles américaines. Mais d'abord, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité. Lors de leur sommet de ce lundi à Dar es Salaam, les dirigeants est-africains ont à nouveau demandé le report de la présidentielle prévue le 15 juillet au Burundi. Camille Grosdidier.
Pour ce troisième sommet de la communauté est-africaine consacrée au Burundi, n'étaient présents que le Tanzanien Jakaya Kikwete, hôte de la Réunion, et l'Ougandais Yoweri Museveni. Les présidents burundais, rwandais et kenyans avaient choisi de se faire représenter par des ministres. Au terme de la rencontre, les dirigeants ont demandé que l'élection soit reportée au 30 juillet, l'espoir étant que d'ici là, M. Museveni, le médiateur dans la crise, aura pu enclencher un dialogue entre les parties burundaises. Par ailleurs, les dirigeants de la communauté est-africaine ont demandé que, quelle que soit l'issue de la présidentielle, on mette en place un gouvernement d'union nationale pour rassembler ceux qui auront soit participé au scrutin, soit l'auront boudé. La crise à Bujumbura a connu un nouveau rebondissement avec la réapparition des auteurs du putsch avorté de la mi-mai au Burundi. Léonard Ngenda Kumana, l'un des généraux à l'origine du coup d'État avorté, a affirmé sur la chaîne de télévision kényane KTN que les anciens militaires poursuivraient leur action jusqu'au départ du président Pierre Nkurunziza.
À Ouagadougou, une semaine après les tirs de mécontentement nocturne dans le camp du régiment de sécurité présidentielle, le Premier ministre Isaac Zida, ancien du RSP, a dit clairement qu'il ne démissionnerait pas. On fait le point avec Nicolas Pinault.
Avant de s'envoler pour un déplacement officiel en Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement burkinabé a tenu à faire taire les rumeurs dans une base militaire de Ouagadougou proche de l'aéroport. Des sites internet et radio burkinabé avaient évoqué dimanche une possible démission du Premier ministre. J'ai suivi comme vous les informations erronées dans la presse. Je voulais saisir cette occasion pour vous dire qu'il n'en est rien. Au sein du gouvernement, il n'y a aucune crise. Le Premier ministre est toujours en place. Plaise à Dieu, a mis au point M. Zida. Le Burkina Faso connaît depuis plus d'une semaine une nouvelle crise autour du régiment de sécurité présidentielle. Ce corps d'élite qui fut le bras armé de l'ex-président Blaise Compaoré exige le limogeage du lieutenant-colonel Zida, qui était pourtant son numéro 2. Les chefs militaires burkinabés ont de leur côté demandé vendredi au président Michel Kafando, qui tente de jouer les médiateurs, la formation d'un gouvernement composé de civils pour mettre fin à cette nouvelle crise. C'est ce qu'ont confié deux sources militaires interrogées par l'agence France Presse. Que ce soit X ou Y, ce qui est important, c'est que nous puissions conduire cette transition, que nous puissions parvenir aux élections le 11 octobre, a lancé M. Zida.
Et violence dans le nord-ouest du Nigeria. 37 personnes ont été tuées à Sigama, dans l'état de Zamfara. Les assaillants, une cinquantaine d'hommes armés, sont soupçonnés d'être des voleurs de bétail. Et d'après un responsable local interrogé par l'AFP, ils ont tiré à l'aveugle, brûlé plusieurs maisons et pris du bétail. Ce massacre serait une riposte à une descente des miliciens de Sigama sur le village voisin de Kokeya, où ils avaient tué deux personnes. Et au Nigeria toujours, à Jos, dans le centre du pays, au moins 44 personnes ont été tuées dimanche soir par deux explosions près d'un centre commercial. L'Agence nationale de gestion d'urgence compte également 47 blessés. Les circonstances des explosions n'ont pas été précisées et les attaques n'ont pas été revendiquées. Les combats persistent au Soudan du Sud. L'armée sud-soudanaise affirme avoir repris aux rebelles le contrôle de la ville stratégique de Malakal, capitale de l'état pétrolier du Haut-Nil. Des rebelles, souvenez-vous, s'étaient emparés de la ville en fin juin. Et au Soudan, la justice a condamné trois dirigeants d'une petite formation de l'opposition. D'après un porte-parole de ce parti, cité par l'AFP, leur sentence s'élève à 20 coups de fouet pour perturbation de l'ordre public. À Nairobi, la capitale kényane, des manifestants anti-homosexualité ont appelé le président américain Barack Obama à s'abstenir de plaider pour le droit des gays lors de sa visite dans le pays fin juillet. Et puis, lutte contre le terrorisme dans la péninsule du Sinaï. L'armée égyptienne a annoncé avoir tué 241 combattants en 5 jours, dont des djihadistes de l'organisation État islamique. Par ailleurs, 4 personnes recherchées et 29 suspects ont été arrêtés selon un communiqué de l'armée.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Dans le reste du monde, l'Allemagne a douché ce lundi l'espoir du Premier ministre grec Alexis Tsipras de conclure rapidement un accord sur la reprise du financement de son pays, fort de sa victoire au référendum, qui aux yeux de Berlin éloigne les deux parties d'une reprise immédiate des négociations. Un survol des derniers développements dans la crise grecque, bien sûr, avec Jacques Aristide.
La décision d'Alexis Tsipras de sacrifier son ministre des Finances, Yanis Varoufakis, avant un sommet franco-allemand crucial à Paris, n'a pas amadoué Berlin. Le gouvernement d'Angela Merkel a rappelé que l'essentiel dans les discussions entre Athènes et ses créanciers sont les positions et non les personnes, et que les conditions pour les négociations autour d'un nouveau programme d'aide ne sont pas réunies. L'Allemagne d'ajouter que c'est aux Grecs de tout faire pour demeurer dans la zone euro, rapporte l'AFP. La situation est d'autant plus urgente que la Grèce n'a plus d'argent, ses banques sont fermées depuis une semaine et fragilisées par les récents retraits massifs. Le gouvernement grec, conscient de la gravité du moment, a convoqué une réunion des chefs de pratiquement tous les partis. Paris a appelé les Grecs à faire de nouvelles propositions. L'Espagne, elle, est favorable à une négociation pour un troisième plan de sauvetage. L'Italie demande à Athènes et ses créanciers d'indiquer une voie définitive de sortie de crise lors des réunions européennes des prochaines heures. Mais d'autres évoquent ouvertement l'hypothèse d'un Grexit. L'Eurogroupe a quant à lui estimé que la victoire du non ne rapproche pas l'Europe d'une solution avec Athènes. Et la Russie de Vladimir Poutine a exprimé son soutien au peuple grec et espéré un compromis. Les marchés européens, eux, perdaient du terrain ce lundi à la mi-journée.
Les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et du groupe de 6 se sont réunis à Vienne dans un ultime effort de parvenir à un accord sur le programme nucléaire de Téhéran un jour avant leur dernier délai. Le point avec Michel Joseph.
Les diplomates ont fait part de quelques progrès. Ils ont aussi souligné la nécessité de finaliser les questions non résolues dans leur tentative de limiter l'activité nucléaire iranienne en échange d'un allègement des sanctions. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré dimanche soir que les différends demeurent et que les deux parties tentent de s'accorder. Un peu plus tôt, le secrétaire d'État américain John Kerry avait déclaré qu'un accord n'avait jamais été aussi près, mais qu'il y avait encore des questions en suspens. Messieurs Kerry et Zarif se sont rencontrés plusieurs fois hier pour des pourparlers qui ont suivi une avancée sur le rythme auquel les sanctions seraient levées et une enquête de l'ONU en vue de déterminer si les activités nucléaires de l'Iran visaient à développer des armes.
7 personnes ont trouvé la mort et au moins 11 autres ont été blessées aujourd'hui dans une frappe de l'aviation irakienne sur un quartier de l'est de Bagdad. Selon un porte-parole, l'appareil avait des difficultés techniques et la bombe est tombée par accident. Plusieurs maisons ont été détruites. L'avion participait à une mission contre le groupe État islamique qui occupe de larges pans de territoire, y compris 2 grandes villes dans le nord et l'ouest de l'Irak depuis l'année dernière. Et le groupe État islamique a attaqué aujourd'hui une localité du nord de la Syrie d'où il avait été chassé il y a 10 jours par les Kurdes et des rebelles arabes. Un porte-parole des forces kurdes a confirmé à l'AFP l'assaut contre Ain Issa, mais il soutient que la ville n'est pas tombée aux mains des djihadistes. De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de la prise d'Ain Issa et de plusieurs villages de la région. Les djihadistes auraient perdu 37 combattants et enregistré 46 blessés lors de cette offensive. Leur capitale, Raqqa, se trouve à seulement 55 km d'Ain Issa. Visite d'une semaine du chef de l'État, de l'Église, pardon, l'Église catholique en Amérique du Sud, arrivé hier à Quito, en Équateur. Le pape François s'est rendu aujourd'hui à Guayaquil, dans le sud-ouest du pays, pour une messe en plein air devant plus d'un million de personnes. Une autre messe est prévue dans la capitale demain, puis le Saint-Père s'envolera pour la Bolivie et le Paraguay. Voilà pour ce bulletin d'information. Au micro, c'était Morgane Guiriec et je cède la place à Jean-Roger Billon dans L'Amérique et vous, une émission consacrée à l'élection présidentielle américaine.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.